quelques mots quand même. Tout d'abord, rappelez-vous que Paul, Saint Paul, qui est auteur de cette lettre, a rencontré Jésus ressuscité sur son chemin de Damas. Il ne l'a pas rencontré durant sa vie physique, dans la vie physique de Jésus, il l'a rencontré dans sa résurrection, dans son corps glorieux. C'est donc ça qui est fondateur chez Saint Paul. On peut dire que c'est comme pour chacun d'entre nous. Ce qui est fondateur de notre foi, c'est bien cette expérience que l'on fait, même si elle n'est pas physique, de la rencontre du ressuscité. Et c'est donc cette rencontre du ressuscité qui va amener Paul à réfléchir sur ce que c'est qu'être homme. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? Pour ce faire, lui qui est un juif, bien qu'il connaît bien les Écritures, reprenant le chapitre 2e de la Genèse, dit que l'homme, finalement, est tiré du sol, tiré de l'argile. Il est, en quelque sorte, une création de Dieu qui vient de la nature. Et avec cette création qui vient, on va dire, de l'argile, il y a le terme qui est celui, poussière tu es, poussière tu deviendras. Et en même temps qu'il y a cette réflexion sur l'humanité créée, il y a cette réflexion sur l'humanité dont chacun fait l'expérience, qu'elle termine avec la mort. Mais voilà que l'expérience de la rencontre du ressuscité, donc de ce corps glorieux, amène Paul à réfléchir sur un devenir autre de celui de l'humanité, qui est l'espérance assez inouïe, extraordinaire, que cet être mortel que nous avons, cet être mortel que nous sommes, est appelé à entrer dans ce qu'on appelle un corps glorieux, autrement dit, ressuscité. Et pourquoi est-ce que c'est si important de dire cela? Parce que dans ces deux mots « corps glorieux », il y a, on pourrait dire, le statut de ce que nous serons. Corps parce que c'est la continuité de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, de ce que nous avons fait. Et glorieux, c'est pour montrer que c'est pas simplement dans ce monde et dans sur cette terre, c'est entrer dans la gloire de Dieu. Donc, dans la gloire de Dieu, en communion avec Dieu, ce que nous sommes et ce que nous avons été, ce que nous avons fait, c'est tout ça qui va devenir, finalement, notre état de sainteté. Voilà donc ce qui est dit. Ça veut donc dire que nous sommes toujours appelés à réfléchir ici-bas, à nous conduire de telle manière que nous préparons finalement notre corps glorieux. Alors, l'Évangile nous dit le moyen le plus sûr. Le moyen le plus sûr. C'est exactement au centre du texte que j'ai lu. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Pourquoi est-ce que c'est le moyen le plus sûr? Réfléchissons un tout petit peu. De Dieu, tel qu'il se révèle, on peut dire qu'il est sa nature profonde, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Ça veut donc dire que cette gloire à laquelle nous aspirons, cette gloire dans laquelle nous serons, elle sera faite d'amour et de miséricorde. Ça veut donc dire que si nous aspirons à cela, à cette miséricorde, comme dit très justement l'Évangile, il nous faut déjà être miséricordieux, comme Dieu est miséricordieux. Alors, Dieu, lui, est miséricorde, nous, dire que je dois donc développer ma filiation divine, puisque lorsque je développe ma filiation divine, je deviens comme mon Père des cieux, je deviens miséricordieux. Plus je deviens fils de Dieu, plus je me laisse habiter par l'Esprit Saint, plus je suis ressemblant à Jésus, plus je devrais normalement, je dis bien normalement, devenir miséricordieux. Premier moyen. Et deuxième moyen, c'est toujours de considérer, comme le pape François nous l'avait dit au début de l'année sur la miséricorde, de considérer Jésus comme étant le visage même de la miséricorde. Si on ne sait pas ce que c'est la miséricorde, c'est difficile à savoir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On regarde Jésus, qui est le visage de la miséricorde du Père. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un homme qui se fait le prochain des plus pauvres, qui annonce le salut, qui se met au service, qui donne sa vie pour les autres, etc. Et on s'aperçoit que la miséricorde, ça se décline dans tout un tas de comportements dont on a entendu une certaine déclinaison ici. Il nous faut aimer nos ennemis, il faut partager, il faut donner gratuitement, etc. Et on se rend compte que, en regardant ce que fait Jésus, en écoutant ce qu'il dit, progressivement, on devient des êtres de miséricorde. Donc soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, c'est devenir toujours plus fils dans l'unique Fils qui est le visage de la miséricorde du Père, c'est-à-dire Jésus. Troisième et dernière chose, pour faire écho à ce qu'on a entendu dans le premier livre de Samuel, tout ce que je dis là, c'est très intéressant, je pense. Et c'est très conceptuel. Et on vous dit, voilà, c'est des belles idées que Norbert nous décline, c'est très bien. Mais David, mais nous-mêmes, devant ce qu'est la miséricorde en acte. On se rappelle, hein, le roi Saül qui est devenu cinglé. Qu'une envie, c'est de faire mourir David, les jeunes de lui. Et voilà qu'à un moment, eh ben, les circonstances font que le roi Saül, il est aux mains de David. Donc David pourrait tirer profit de la situation, le clouer au sol. Non. J'ai entendu ce qu'il a dit. Je ne porterai pas la main sur celui qui est loin du Seigneur. La miséricorde ici se fait miséricorde en acte dans une situation bien précise. Il y a la logique de son serviteur qui dit, voilà, le Seigneur l'a remis entre tes mains, t'as qu'à le clouer au sol avec ta lance, ça sera fini. Et David discerne que ce n'est pas ça ce qu'il faut faire. Et on se rend compte que dans ce discernement, on peut faire jouer ce qui est de l'ordre, on pourrait dire, de la logique du monde. Ton ennemi est là, t'as qu'à le tuer. Et la logique de la miséricorde, c'est de dire, c'est pas à moi que ça revient, c'est à Dieu. Et en même temps, dans le discours de David, il y a quelque chose de très important. Je ne toucherai pas celui qui est loin de la part du Seigneur. Ça veut dire que pour nous, être des hommes et des femmes de miséricorde, c'est bien sûr accepter que nous avons tous reçu l'onction du baptême et que, par extension, tous les baptisés sont des loins du Seigneur, c'est-à-dire des gens qui respecter. Et aussi par extension, tout être humain est digne de respect. Et on se rend compte que finalement, être miséricordieux, c'est pas simplement un beau concept, une belle idée théologique. C'est une manière d'être. Est-ce que habiter par la miséricorde de Dieu, essayer priant d'être figure de la miséricorde du Fils, je mets en œuvre une logique qui n'est pas la logique du monde, mais qui est la logique du respect de chaque être humain dans ce qui fait sa particularité, dans ce qui fait son originalité. Parce qu'il ne m'appartient pas de le juger. Il ne m'appartient pas de le condamner. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Il m'appartient simplement d'être là et de respecter sa vie. Surtout quand cette vie, elle est remise entre mes mains. On s'aperçoit que la miséricorde, pour terminer, elle est bien une expression même de la vie.